het even.
Alors, nous allons, pour commencer, lire le chapitre correspondant à notre question du jour. Apocalypse 13, le verset 2. Je vous donne quelques petites secondes si vous n'avez pas encore trouvé. Apocalypse 13, nous allons lire le verset 2 à 4, puis nous allons lire le verset 12 à 13. Alors, Apocalypse 13, 2 à 4 nous dit « Et la bête que je vis ressemblait à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours. » Et sa gueule comme la gueule d'un lion. Et le dragon lui donna sa force, et son trône, et un grand pouvoir. Et je vis l'une de ses bêtes, de ses têtes, pardon, comme blessée à mort. Mais cette plaie mortelle fut guérie, et toute la terre était dans l'admiration. Elle suivait la bête. Et on adora le dragon qui avait donné son pouvoir à la bête. On adora aussi la bête, en disant « Qui est semblable à la bête et qui pourra combattre contre elle ?» Alors dans ce même chapitre, le verset 12 et 13, il est dit « Elle exerçait toute la puissance de la première bête en sa présence, et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête, dont la plaie mortelle avait été guérie, et elle opérait de grands prodiges. » Même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Alors, si comme moi vous aviez déjà écouté les informations à la télé, s'il y a eu un accident grave et que quelqu'un est toujours en vie malgré l'état de ses blessures, on ne dira pas qu'elle a une blessure mortelle. On dira qu'elle a été grièvement blessée. Si on emploie le terme blessure mortelle, cela signifie que malheureusement la personne aurait succombé à sa blessure. Alors il y a quelque chose de bizarre, d'étrange dans ce verset biblique, puisque quelqu'un qui a reçu une bête qui aurait reçu une blessure mortelle guérit. De quoi est-il question? Comme on le sait, donc le livre de l'Apocalypse est un livre rempli d'images et qu'il faut interpréter. Et malheureusement, cet après-midi, l'idée ce n'est pas de faire un cours sur l'Apocalypse, mais par contre, j'aimerais vous rediriger vers un article qu'on a publié sur le magazine Advent Life dans la rubrique Actualité prophétique sur la visite du pape aux États-Unis. Et là-dessus, on explique très bien comment comprendre le fait que ce soit une bête, tous les éléments pour permettre de comprendre ce texte. Cet après-midi, on va aller de l'avant et se concentrer sur cette bête que nous avons identifiée justement comme étant un pouvoir. Et nous le verrons que ce pouvoir a reçu une blessure. À chaque fois que je dis système papal, vous avez compris que je ne parle pas d'un homme, je ne parle pas de l'homme, le pape. Je parle du système qui sous-tend cela, c'est-à-dire le système qui englobe cela. Si vous avez lu l'article que nous avons fait, et si peut-être que vous le savez déjà, le système papal, voilà la bête en question. Est-ce que vous saviez qu'en 1798, ce système a reçu un gros coup dur? Parce qu'à cette époque, le système papal avait une très très grande autorité. Et j'aimerais même vous dire qu'aucun chef d'État, ni roi, ni quoi que ce soit, ne pouvait prendre ses fonctions sans au préalable avoir été en quelque part couronné par le pape lui-même, adoubé par le pape lui-même. Mais à cette époque aussi existait Napoléon, et Napoléon changea la donne. Il voulut court-circuiter la papauté et il déporta le pape de l'époque, le pape Pie VI, il le déporta à Valence, suite à quoi ce pape mourut. Alors, ce n'est pas tant la mort du pape en tant qu'être humain qui a noté ici, mais c'est le fait que Napoléon a, squeezé son autorité, c'est-à-dire que À ce moment-là, la papauté ne pouvait plus avoir la main mise sur le pouvoir en Europe. C'est par cela qu'on repère la blessure mortelle. Mais Napoléon ne s'est pas arrêté là, on ne le sait pas souvent, mais quelques années plus tard, en 1809, il y a eu aussi une autre arrestation d'un pape, et Napoléon lui-même dit à ses généraux que si le pape ne se pliait pas à son autorité, il fallait l'emprisonner. C'est une citation qu'on a retrouvée sur Internet de Napoléon lui-même. Et c'est ce qui se passa En 1809, donc, le pape Pie VII, le successeur de Pie VI, fut mis en prison. Pourquoi tout à l'heure je disais que c'était un système? Parce que vous comprendrez bien qu'après cela, malgré cette blessure mortelle, il y eut d'autres papes. Mais la papauté en elle-même n'avait plus autant de pouvoir parce qu'elle avait été, en quelque part, destituée de ses fonctions d'autorité suprême morale. Alors, pendant toutes ces années, il y a eu une succession de papes, mais voilà, ils restaient confinés en Italie avec des fonctions, ils faisaient fonctionner l'Église catholique. Alors il y a un événement, pour revenir enfin à la réponse à notre question, qui marque le retour du pape, pardon, sur le plan international et mondial même. Il s'agit donc, en février 1929, plus précisément le 11 février 1929, d'un événement qui marquera la naissance du plus petit état du monde, un état dans l'état, j'ai nommé l'état du Vatican. Elle naîtra grâce à la signature des accords de Latran par Mussolini. Les accords de Latran stipulaient que la religion catholique serait désormais la seule religion de l'État. Elle reconnaissait la souveraineté du Saint-Siège, c'est-à-dire du Vatican, dans le domaine international. Et enfin, le Saint-Siège jouirait à partir de cette date de l'immunité au niveau mondial, quand bien même les États n'avaient pas de rapport diplomatique avec l'Italie. Autrement dit, l'Italie donnait l'autonomie au Saint-Siège sur le plan mondial. Et pour finir, parce que ce n'est pas tout, toutes les sentences du tribunal émises au Vatican ne pouvaient être remises en question par les pouvoirs publics. Enfin bref, à cette époque, a été donné les pleins pouvoirs au Saint-Siège et donc au Vatican. Dès cette date, pardon, la papauté retrouve plus de pouvoir qu'elle n'en avait jamais eu jusqu'à aujourd'hui. Et ce n'est plus un secret pour personne, le pouvoir moral du Vatican sur la place mondiale aujourd'hui en 2016 est sans précédent, au point de mettre, et je dis bien littéralement, à ses pieds, tous les chefs d'État de la planète. En effet, lors des visites, pour des questions de respect et de protocole, les chefs d'État doivent littéralement se prosterner devant le pape. Non, la Bible ne ment pas. Étudions-la, car les temps sont courts et notre espérance ne tardera pas à venir. Habacuc 2.3 nous dit « Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira. » Certainement.